Alors pour ces journées du patrimoine, pour fêter aussi Ariane qui vient de demander le baptême et qui suit elle-même des études en vue d'être conservatrice du patrimoine, mais également pour ce culte de rentrée de notre Église, j'ai choisi un texte dans l'Évangile, un texte où les disciples de Jésus admirent le temple de Jérusalem. « Maître, regarde, disent-ils, quelle pierre, quelle construction !» Alors Jésus profite de cette occasion pour inviter les disciples à adopter une certaine dose de réalisme. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des choses qui paraissent solides, qui paraissent magnifiques et qui ne le sont pas tant que ça. Il y a des choses dans notre monde, dans notre univers qui sont déjà en train de se fendiller, de s'écrouler, qui déjà s'éboule un petit peu comme la façade de l'oratoire, et ce serait fou de faire comme si de rien n'était, nous dit Jésus. Alors je vous propose d'entendre ce texte dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 13, l'admiration des disciples pour le temple et puis l'annonce de la destruction de ce temple par Jésus. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus alors s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean, André lui posèrent en privé cette question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Alors je passe au verset 14. « Ce sera lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. » Que le lecteur fasse bien attention, nous dit Jésus. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Que celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et il n'y en aura plus jamais de pareil. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes, des prodiges, pour égarer, si possible, les élus. Soyez donc sur vos gardes. Je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui seront dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez donc l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé entièrement. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Alors pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez donc qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors ces paroles, bien sûr, peuvent faire peur, et il n'en est pas, ce n'est pas avec justice, car il s'agit bien sûr de l'Évangile, donc d'une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est à cette bonne nouvelle que je vous propose de méditer dans quelques instants, mais pour commencer à tourner nos cœurs vers Dieu dans la prière, pour nous ouvrir à son Évangile, je vous propose de chanter le psaume 42, « Comme un cerf, altéré brame, pourchassant le frais des eaux, ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après ses ruisseaux. » Comme une prière, mais une prière déjà confiante et joyeuse. Psaume 42. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages que nous avons entendus dans la lecture de la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et un cœur de chair pour aimer. Les disciples étaient donc enthousiastes en sortant du temple de Jérusalem. Voilà du beau, voilà du solide. Quelle pierre, quelle construction. Alors bien sûr, nous avons nos temples à nous, de bonnes constructions qui nous rassurent. Peut-être un peu comme un doudou qui rassure un enfant, finalement. Et la vie coule ainsi, comme immuable, apparemment. Comme si les murs de nos protections sociales, de nos traités de paix avec les nations resteraient toujours en place. Comme si le socle de notre théologie que nous avons reçu des générations passées pouvait résister à l'épreuve du temps et de la vie. Comme si chacun de nos proches serait fidèle et demeurerait toujours fidèle sans jamais nous trahir, un peu. Comme si notre corps pouvait rester éternellement jeune et beau. Eh bien non, nous dit Jésus, être réaliste, c'est admirer ce qui est beau en ce monde, oui, admirer sa solidité aussi, mais c'est aussi en mesurer la fragilité, voire déjà les fissures, voire même l'éboulement finalement, qui est déjà en cours. Être réaliste, c'est ne pas se tromper d'optimisme et d'ailleurs pas se tromper de pessimisme non plus. C'est prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, ouvrir les yeux et ne pas s'arrêter simplement aux belles constructions en pierre, ne pas non plus d'ailleurs s'arrêter à leur éboulement qui est déjà en cours, en se désespérant, mais c'est voir ce qui reste, voir enfin peut-être à travers les fissures qu'il y a une réalité qui demeure, une réalité qui dépasse même largement et les pierres et les fissures, parce que cette réalité est vivante, elle est en croissance, elle est en mouvement, elle. Quelque chose peut-être qui, au-delà du visible, au-delà de la pierre, quelque chose qui advient, qui se développe, qui rend meilleur, qui rapproche, qui rassemble des quatre coins de l'horizon, les forces vives. Alors ce n'est donc pas par méchanceté que Jésus fait prendre conscience aux disciples de la fragilité du patrimoine dont ils ont hérité. Le plus beau des patrimoines n'a d'intérêt que s'il ouvre à la vie, pas s'il nous écrase sous ses ruines. Alors Jésus ne critique pas le temple en lui-même, bien sûr. L'Évangile nous montre qu'il le fréquente et que ce temple lui tient même particulièrement à cœur. Deux chapitres plus haut dans cet Évangile selon Marc, on voit Jésus lutter pour que ce temple reste, comme il le dit, un lieu de prière pour toutes les nations, c'est-à-dire littéralement un oratoire pour les gens de toute trajectoire, ce qui effectivement nous irait bien comme devise pour notre Église, et donc on peut remercier Jésus de nous avoir fait ainsi un slogan tout trouvé pour vanter les mérites de notre Église géniale. Comme le dit Salomon à l'inauguration du Temple, Dieu n'habite évidemment pas ce tas de cailloux. Sa fonction, la fonction de ce bâtiment en pierre, c'est de nous aider à penser à Dieu et à prier Dieu. Mais c'est utile donc, comme le rappelle Jésus, mais ce n'est qu'une construction, il ne faut pas confondre. On pourrait dire la même chose de toute la religion d'ailleurs. C'est une construction, utile certes, mais c'est une construction. On pourrait le dire de tout ce qui est bon finalement. Par exemple, ce qui peut assurer un peu plus de justice en ce monde, un peu plus de santé, un peu plus d'éducation, de paix, un peu plus d'avenir pour les habitants de notre planète, présent et futur. Toutes ces organisations, ces choses sont des constructions utiles, mais ce ne sont que des constructions à la durée, à la validité relative. Alors pour se rendre compte à la fois de la vraie valeur finalement de ces constructions humaines et de leurs limites, Jésus invite ses disciples à prendre un peu de recul et prendre un peu de hauteur. Il les amène sur le mont des Oliviers, en face du temple. Alors le mont, la montagne, ça évoque l'élévation, la prière. Et puis l'olivier, ça évoque l'huile, qui est une image très classique dans la Bible, bien sûr, mais pas seulement, dans tout le bassin méditerranéen, une image de la bénédiction de Dieu. Et donc l'olivier, ça évoque celui qui est source de bénédiction pour les autres. Et donc Jésus nous propose d'avoir un peu d'élévation, de prendre en compte un peu les oliviers, un peu de bénédiction reçue par d'autres, un peu aussi les occasions que nous avons eues, que d'être un peu bénédiction pour un autre. Et dans ces expériences très simples et très concrètes de bénédictions échangées, données et reçues, d'élévation, dans ces expériences toutes simples, il y a une vie, une qualité de vie, un vrai bonheur profond aussi. Il y a infiniment plus que dans le temple, et en même temps, ça ne rend pas le temple inutile, bien sûr. Ça le remet simplement à sa place comme un moyen, finalement. Bien des éléments de la religion sont utiles et beaux, mais la religion est faite pour s'effacer devant l'essentiel et même pour tomber en poussière quand elle a fini de servir. Quand cela arrivera-t-il ? Demandent alors les disciples à Jésus. Ce sera, voilà, le temps que la religion s'efface, que le temple s'éboule, ça sera quand vous verrez l'abomination et la désolation là où elle ne doit pas être. Là encore, ce n'est pas de la haute théologie abstraite qui n'a aucun sens, mais c'est quelque chose de très concret, très pragmatique, finalement, à mesurer dans notre vie. La religion est bonne tant qu'elle nous fait avancer, tant qu'elle nous fait monter sur la montagne, tant qu'elle nous fait recevoir de l'huile et tant qu'elle nous rend comme producteurs d'huile un peu. Mais la religion n'est plus bonne quand elle profane en nous quelque chose d'essentiel, par exemple notre capacité à réfléchir, notre personnalité, notre souffle de liberté, notre créativité personnelle, ou bien quand elle nous fait oublier de porter sur le monde, sur ceux qui nous entourent, un regard concerné d'olivier, de producteur de bénédictions. Alors ça ne veut pas dire que la religion doive nous faire plaisir et que ce soit cela le critère quand la religion nous fait plaisir, et bien c'est une bonne religion, non. La religion doit nous bousculer quand nous sommes trop confortables, tout autant qu'elle doit nous réconforter quand nous sommes souffrants et nourrir notre croissance. Mais en tout cas, oui, il faut que globalement, quand on mesure peut-être année après année, il faut que la religion nous élève à Dieu, nous élève vers Dieu, qu'elle nous conduise sur le mont des oliviers, qu'elle fasse de nous un petit peu un olivier. Par contre, dès que notre religion, ou bien d'autres constructions humaines, ça peut être aussi des convictions politiques, ça peut être je ne sais quoi encore, devient source de désolation pour nous, c'est-à-dire que nous n'évoluons pas, alors oui, nous devons peut-être avoir un autre rapport avec notre religion, avec nos convictions, avec nos pensées. Nous devons alors peut-être évoluer dans notre théologie, nous devons peut-être réformer notre Église, si nous le pouvons, nous pouvons nous y engager pour la changer, ou bien sinon changer d'Église. Mais le plus grave, et Jésus insiste là-dessus finalement, c'est peut-être là le critère essentiel, il insiste avec un rare « faites bien attention, vous qui lisez, vous qui écoutez, qui cherchez à comprendre ». C'est quand notre temple intérieur, quand notre être profond est envahi par la désolation. Car pour Jésus, nous le savons par de multiples passages, quand il parle du temple de Jérusalem, il parle aussi du temple de notre être. Puisque chacun d'entre nous est bien plus réellement habité par Dieu qu'aucune construction humaine, qu'aucune maison de pierre ou qu'aucun rite religieux, bien sûr. La désolation dans notre être profond. Malheureusement, c'est une réalité qui nous touche. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons tant et tant de personnes désespérées, déprimées, à bout de force. Cela demande, je crois, une compassion toute particulière. Parfois, c'est peut-être pour masquer cette détresse de l'homme que nous essayons de nous rassurer en croyant que nos constructions de bonnes pierres sont éternelles, qu'elles nous protégeront toujours, que nos institutions, nos vérités, nos avantages acquis, notre éternelle santé, jeunesse, nous garderont telles quelles pour les siècles des siècles. Amen. Quelle pierre, quelle construction, oui, oui, c'est de la belle ouvrage, nous dit Jésus. Et ça mérite l'admiration. Tout cela est bien. Et d'ailleurs, puisque nous sommes là à mesurer la beauté de tout ça, on peut penser à ne pas le garder pour soi tout seul et voir son frère, sa sœur à côté de nous. Et puis nous pouvons aussi être reconnaissants souvent de l'avoir reçu d'autres. Voilà ces belles constructions. Mais attention, attention, c'est hyper fragile, nous dit Jésus. N'y mettons peut-être pas trop notre cœur, afin qu'une lézarde dans l'édifice ne soit pas pour nous une désolation totale de notre être intérieur, parce que nous aurions tout investi là-dedans, finalement. Un pépin de santé, la trahison d'un être cher, le chômage, la dépression, le manque de morale, le manque de je ne sais quoi, sont des choses vraiment dures, que Dieu, bien sûr, ne veut pas, évidemment. Mais rien de cela, aucune de ces choses ne devrait briser l'estime que nous avons de nous-mêmes, ni toucher notre espérance, ni notre capacité à être heureux, ni notre foi, car notre être profond est gardé dans une autre dimension que ces constructions, que ces choses. Et pourtant, la désolation peut arriver dans notre existence. La désolation arrive, on le sait, parfois. Jésus ne pose pas la question des responsabilités quand ça arrive, mais il nous invite à bien réfléchir. Que faire quand arrive la désolation sur notre être ? Et comment nous préparer, finalement, pour ces temps difficiles ? Et cela, je crois, oui, comme le dit Jésus, ça vaut pour chacun, ça vaut pour ceux que nous aimons, pour nos enfants que nous voulons préparer vers la vie, et ça vaut pour notre Église, bien sûr, aussi. Quand vous verrez la désolation, nous dit Jésus, là où elle ne doit pas être, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes, c'est le premier conseil qu'il nous donne. Alors qu'y a-t-il pour nous d'essentiel dans ce simple déplacement de quitter les environs de Jérusalem pour monter sur les montagnes ? Alors je crois, oui, quand vient la désolation, nous pouvons commencer à sortir un peu de notre tourbillon, sortir de nos constructions, de nos remparts humains, y enlever un petit peu notre cœur pour un temps d'élévation. Alors la montagne, ça évoque un temps de culte et de prière, ça évoque un temps de louange aussi, de discernement de ce qu'il y a de bon dans nos vies pour remercier Dieu peut-être de tout cela. Ce que nous avons eu de bon dans le passé, discerner ce qui est quand même reste de bon dans notre existence présente, et puis ce qui ira peut-être survenir comme bonne chose dans le futur, qui sait, c'est possible. Alors quand on est sur la montagne, la perspective est déjà changée finalement. Il y a des chemins inconnus qui sont aperçus, des choses qui nous semblent être des montagnes qui sont en fait des collinettes ridicules. Et puis quand on est sur le sommet de la montagne, on voit ce qu'il y a sur l'autre versant de la réalité, on voit une autre vision des choses. Alors l'élévation, la recherche d'élévation pour réagir et pour se préparer. Ne craignons pas de prier, ça paraît simple de dire ça, mais ça peut faire un peu pieusard finalement de dire à ses proches « Bon, je me retire quelques moments pour prier. Je prends une semaine pour un temps de retraite, oui, et pourtant, quel temps gagner finalement avec ce temps investi ?» Le deuxième conseil de Jésus, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alors oui, notre premier réflexe quand ça ne va pas, c'est de renforcer nos défenses, de descendre aux abris, tous aux abris avec le casque, et d'ajouter encore un manteau comme un rempart finalement d'une apparence. Eh bien, c'est une mauvaise idée. La sortie, elle est par le haut, elle n'est jamais par la cave. La fin de la désolation, ce n'est pas dans le repli sur soi, elle n'est pas dans nos gris-gris matériels, nos petites choses, nos petits rites, elle n'est pas dans les faux-semblants, mais en s'exposant au contraire au ciel, dans les montagnes, à ce flux bienfaisant qui vient de Dieu et qui vient aussi de ces anges que Dieu rassemble des quatre coins de l'horizon, ces anges que sont souvent nos frères et sœurs à notre porte. Alors ensuite, Jésus nous dit « Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ». La naissance dans les évangiles, C'est souvent l'image de notre être spirituel, de notre foi qui naît, que l'on allait ensuite avec de la théologie un peu simple, de base, avec des textes faciles, puis qui demande des aliments plus nourrissants, des textes plus difficiles, peut-être comme celui que je vous propose ce matin, dans la mesure où notre foi devient plus autonome et notre capacité à prendre la vraie mesure des choses un peu par nous-mêmes. Alors, malheur à celui dont la foi est encore en germe, finalement, ou alors une foi tout bébé, quand vient le temps difficile. Malheur à celui qui n'a jamais appris à regarder les autres et le monde. Malheur à celui qui n'a jamais appris à se poser des questions, à réfléchir par lui-même, et peut-être à transgresser ce qu'on lui a toujours appris, quand cela est juste. Alors ce n'est pas une menace de la part de Jésus, mais c'est juste un cri de compassion. Et c'est une idée qu'il nous souffle. Faites bien attention, veillez sur votre petite foi, surtout quand ça va bien, c'est un temps où l'on peut travailler, investir dans cette croissance. Veillez sur la foi de ceux que vous aimez, nourrissez-la avec du lait, nourrissez-la avec des vitamines, pensez à passer à de la nourriture peut-être plus consistante, éduquez votre foi. Apprenez-lui à sortir, à prendre le frais, à prendre l'air, à monter sur les montagnes, à s'aventurer sur des chemins. Oui, préparez, veillez sur notre foi. Et puis Jésus nous dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. C'est le dernier conseil qu'il nous donne. Même si notre foi a bien grandi, il arrive que notre vie spirituelle connaisse un coup de froid, comme l'hiver tombe sur les arbres, et que notre cœur alors soit comme du bois sec. Avec cette image, Jésus nous dit que ce n'est pas forcément notre faute et que tout n'est pas fini, finalement. Parfois, notre foi est faiblarde parce que nous l'avons négligée, mais parfois elle est sèche parce que l'hiver est passé et que nous n'y pouvons rien, c'est la saison, voilà. Ou plutôt si, nous dit Jésus, dans ces cas-là, bizarrement, nous pouvons encore prier, nous dit Jésus. Il ne s'agit pas de prier pour que Dieu ne nous envoie pas de catastrophe, justement, quand notre foi est faible et que nous ne sommes pas trop en forme. Ça n'a pas de sens, car bien sûr, Dieu n'envoie pas de désolation sur personne, ni pour le punir, ni pour le tester, ni pour l'avertir. C'est encore utile de le rappeler encore et encore. Au contraire, Dieu envoie, comme on dit dans ce texte, des légions d'anges pour nous offrir de l'aide quand nous sommes faibles, nuls ou éprouvés. Mais alors pourquoi prier pour que la désolation n'arrive pas quand nous sommes en hiver? Eh bien parce que Dieu peut faire ce miracle de transformer pour nous l'hiver de notre foi en printemps. Regardez les signes, nous dit Jésus. Déjà les branches du figuier deviennent plus tendres, les feuilles poussent. Alors certes, nous ne pouvons pas encore sentir le parfum des fleurs, goûter la pulpe des fruits, mais il y a un frémissement de progrès sensible. Alors attachons-nous, surtout quand ça va mal, à sentir ces petits frémissements, ces petits signes de frémissement positif dans notre être. Attachons-nous, oui, à aimer la moindre étincelle de foi, de petit éclat d'espérance, un léger assouplissement de brindilles, finalement, dans notre cœur désespéré, asséché. Déjà, nous dit Jésus, le Fils de l'homme vient d'en haut, toujours il vient d'en haut, bien sûr, et il est déjà aux portes de notre être, il est aux portes de notre corps, de notre intelligence, de notre sensibilité, aux portes de notre âme, de notre esprit. Ce Fils de l'homme, dans la Bible, 9 fois sur 10, c'est tout simplement le Fils d'Adam, c'est l'humain normal, mais au sens où Dieu l'entend, cet être que nous sommes finalement. Cet être que Dieu rêve en nous voyant, un être en même temps génial, bien sur terre en ce monde, et puis en même temps doué d'une incroyable dignité, d'une élévation inouïe. Et ça, nous dit Jésus, ce n'est pas une promesse en l'air. En vérité, nous dit-il, cette génération ne passera pas sans que tout cela soit réalisé. Eh bien, peut-être que ça peut prendre encore quelques jours, quelques heures, comme nous dit Jésus, mais cette promesse est pour vous. Ce n'est pas l'hiver qui arrive, mais c'est le printemps. Soyons plus vivants et plus heureux maintenant. Amen.